Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Max Agnor, le fondateur, cofondateur de The Collectionist.
Oui, alors c'est le collectionniste ouais. Et effectivement on était trois, on a commencé à trois ouais. Et maintenant mes deux compères sont partis.
D'accord, ah donc t'es tout seul, solo du ghetto ouais. À la tête de la boîte, c'est incroyable. Déjà merci de me recevoir dans tes bureaux, c'est sympathique, on est en plein milieu du 9e arrondissement, il y a de la moquette de partout donc on a un son de folie, ça c'est chambé. Et aujourd'hui on va parler de The Collectionist. Du début de l'aventure jusqu'à aujourd'hui, on va voir que vous avez levé des millions d'euros ouais. et que vous grandissez, où il y a plus d'une centaine de salariés, c'est devenu une énorme affaire en fait.
Ben maintenant, ouais, donc les bureaux sont hyper chouettes. On a déménagé en décembre dernier. Ouais. On commençait à être un peu serré, on était au bout de la rue. Là, on est juste derrière, on est entre Trinité et Notre-Dame-de-Lorette. Ouais. Et on avait à peu près 300 mètres carrés. Maintenant, on a quasiment 900. Donc, on commence à être vraiment serré. Ouais. On est 250 personnes en
250
tout.
250 personnes.
Mais on a 8 bureaux, en D'accord. fait. Paris, Verbier, Annecy, Marseille, Bordeaux, avec deux antennes, Saint-Tropez, Cap Ferré, Ibiza, Barcelone et Athènes.
Tu les connais tous.
Donc, ouais, j'y vais et tout. Et à Paris, on doit être une petite centaine.
D'accord, ok. Trop bien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, avec plaisir. Mais du coup, je suis Max Agnor. J'ai 37 ans, je suis breton, je viens de Brest. J'ai grandi à l'étranger, j'ai grandi en Arabie Saoudite. Et après, j'ai fait mon lycée en lycée militaire à l'école navale à Brest.
Okay.
Et après, parcours assez classique du bon élève. J'étais en prépa, j'ai fait HEC, j'ai fait de la finance pendant 4 ans. J'étais consultant pour des banques. C'était une super école. C'était pas forcément non plus c'était pas un job passion. Mais aujourd'hui, il y a énormément de choses que je réutilise au quotidien.
Comme quoi?
Tous les outils. Honnêtement, je trouve, c'est plutôt le conseil d'ailleurs que la partie finance, mais savoir traduire une vision en roadmap, en feuille de route, cadrer un point, mettre en place des suivis, du contrôle, enfin c'est tous les outils qui font que la société fonctionne bien, c'est-à-dire c'est donner un plan à tout le monde. Nous on partage quasiment tout ce qu'on fait, on partage tous les chiffres avec toutes les équipes. Je pense que c'est aussi notre rôle de pouvoir les éduquer ou sensibiliser en tout cas à ce type de problématique pour qu'un jour ils aient leur société, ils dirigent leur propre équipe, ils défendent leur budget. Ce sont des outils qui du quotidien en fait, qui servent à un dirigeant mais qui servent aujourd'hui nous à tous les managers dans les bureaux.
Trop bien, ok. Et alors t'es né où, t'as grandi où, tu nous l'as dit rapidement ouais. mais j'aime bien revenir sur diguer un peu dans l'enfance quand même parce que là tu l'as passé rapidement donc breton, c'est quoi l'univers, la famille, c'est tous des marins,
un peu,
comment
ouais.
ça se passe?
Un peu, c'est cliché mais c'est vrai, j'adore les crêpes, j'ai une partie de ma famille, mon père était pilote d'hélico dans la marine, mon grand-père était D'accord. officier dans la marine, l'autre côté c'était plus classique, ma grand-mère avait un magasin de mode anglaise, Dax, Burberry, Aquascottum, etc. à Brest. Je suis né à Landerneau, donc c'est vraiment différent de faire ouais. plus breton, quoi. On a déménagé en Arabie Saoudite quand j'avais 7 ans, donc okay. 7 à 14 ans.
Pour suivre papa militaire, quoi.
Ouais, exactement. Et C'était une expérience extraordinaire parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une petite fille à Paris et c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on vit dans des trucs, c'est un peu des prisons dorées, on vit dans un campagne, mais t'es tout le temps dehors, t'es tout le temps à la piscine, au tennis, sur ton vélo, t'es complètement libre, quoi, dans un truc un peu fermé. Et je suis reparti à 14 ans parce que le lycée, les cours au lycée, en fait, n'étaient pas forcément assurés. Et pour le coup, c'est le moment où un pays comme l'Arabie Saoudite, tu commences à gratter un peu la prison dorée, à dire bah, en fait, tu peux, y a pas de cinéma, tu peux pas aller au restaurant avec une fille qui est pas ta copine ou plutôt ta femme ou ta sœur. Les femmes peuvent pas conduire, peuvent pas travailler. Et pour un ado, même t'as pas tant de ça d'activité. Mm. Et donc je suis rentré à Brest. Donc, deux salles, deux ambiances en lycée militaire. Et après, on passait tous nos étés. On avait une maison de vacances à Kalymnos, qui est une toute petite île au large de la Turquie dans les Dodécanèses. Donc, franchement, c'était une enfance hyper heureuse et avec beaucoup de voyages. Donc, je sais pas à quel point, docteur, ça drive aujourd'hui. Ce que je fais, mais clairement, oui, c'était important pour moi.
Mais c'est marrant parce que tu as une famille de militaires, tu ressembles tout sauf à un militaire aujourd'hui. Tu es échevelé, la barbe de 15 jours ou 3 semaines comme moi. t'es sapé avec un sweat pas repassé. Ma mère pètera un câble. C'est marrant, t'es vraiment en opposition complète, quoi.
Ben, et pourtant, j'étais en lycée militaire, donc c'est-à-dire, genre, j'étais habillé en marin. Tous les jours, je faisais mon lit au carré, j'avais la tête rasée, mais je sais pas, je pense, c'est marrant parce que ça va un petit peu avec le débat de l'uniforme à l'école. Moi, je trouve c'était assez chouette. C'est vrai que ça gomme pas mal les différences. On va plus vers les gens, on se scrute moins un petit peu sur les apparences. Et après, qu'est-ce que j'ai gardé du lycée militaire? À un séminaire, il y a beaucoup de règles, mais il y a aussi beaucoup. On trouve tous les moyens de faire des conneries. Exactement. Franchement, c'était un peu ces ambiances d'internat.
De toute façon, plus t'es bordé, plus tu fais de conneries, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais j'en garde un super souvenir. Et j'ai passé voile au bac. On pouvait passer son diplôme d'aviation. Enfin, il y avait franchement des trucs hyper chouettes.
Ouais.
Donc, et avec des gens qui venaient de partout, parce que c'est beaucoup justement d'enfants de militaires, avec des parents expats un peu partout dans le monde. Et ça ressemble un peu à une sorte de Poudlard sur une falaise au large de Brest. Non, c'était un super bahut.
Trop bien. Ok. Et donc là, après, tu rentres à Brest. Il me semble que tu fais le lycée.
Moi, je fais prépa Henri IV.
Henri IV, ouais, c'est ça.
Sur ton
profil LinkedIn, c'est Henri IV HEC. Tu te dis, putain, le mec, ça déroule.
Ouais, non, mais c'est clair, c'était un peu quand même le parcours du bon élève. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est toujours un peu foireux quand je dis. T'as fait quoi, Henri IV HEC? Je trouve d'un seul coup, tu dis, waouh. Enfin, même le mec un peu peut-être chiant. Et quand tu dis je fais une bonne prépa, une bonne école, et qu'après on t'interroge, ça fait presque le faux modeste, mais c'est passe encore plus pour un chiant.
C'est clair.
Donc Henri IV, idem, genre j'en garde des bons souvenirs. Ça t'apprend, enfin ces trois années, exactement, et puis j'ai cubé ces trois années où t'apprends tellement de choses tellement rapidement. Tu as aussi des super bons potes, c'est l'année un peu galère.
Tu bosses beaucoup quand même.
Tu bosses beaucoup, t'es stress. Après, honnêtement, ça reste un bahut amélioré, quoi.
Bien sûr.
Et après, école de commerce, HEC, c'est finalement, je trouve, c'est une bonne école, t'apprends plein de choses, c'est un bon réseau. Dans tout mon parcours scolaire, c'est pas le truc que je trouve le plus fun, quoi.
Ok, très bien. Et donc là, tu fais des stages chez HEC, direct
finance? Exactement. Mes deux stages à Hong Kong, un en banque et après un en conseil en finance. Et derrière, ils m'ont proposé de me recruter. Franchement, je me rends compte que j'étais tellement, j'ai passé aucun autre entretien. Donc c'était juste le côté un peu facilité. C'était une société qui venait de se monter, donc tu as du conseil en finance. J'ai commencé à bosser avec eux à Hong Kong, puis à Londres, New York, et je suis rentré à Paris. Et à ce moment-là, c'était vraiment génial parce que c'était des villes dans lesquelles j'avais pas vécu avant. Londres, je connaissais un petit peu, mais vraiment très peu. J'adorais ce format où j'étais quasiment parmi les premiers à chaque fois à ouvrir le marché, enfin à être envoyé en mission parce que ça me faisait pas trop peur de partir à l'étranger. J'aime bien ça. Et j'accueillais un petit peu les petits nouveaux après. Mais j'ai beaucoup aimé l'opportunité de voyager et de vivre en fait dans ces villes. C'est-à-dire, très rapidement, je suis un homme de routine. J'adore trouver le spot où je vais prendre mon petit café, un bagel le matin, et avoir le sentiment de vivre dans une série télé américaine. Donc à chaque fois, ça a été un peu l'opportunité de découvrir pour de vrai d'autres pays, d'autres villes, d'autres cultures. Et le métier c'était pas ma passion. Après, comme je disais, c'est des outils pour faire toujours.
T'es un homme de routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aimes bien la routine?
Ben, c'est marrant parce que genre j'aime et j'aime pas du tout. Ouais. Mais le samedi matin, j'adore. Ma fille se réveille tôt, évidemment, elle a 15 mois, donc.
C'est horrible d'ailleurs, c'est fini les grasses mat là.
Ah non, ça fait 10 mois, mais c'est dur. Tellement longtemps.
Ouais.
Et du coup. Je vais faire quelques courses, j'achète un magazine de déco, je me pose pour prendre mon café, elle pousse son quignon de pain, on passe au parc, j'achète des fleurs, je passe au fleuret. Et je connais les commerçants du quartier, j'adore ça. Et franchement, j'adore cette routine. Pareil, quand je retourne dans des endroits où j'ai vécu, j'adore aussi retourner dans tel resto, telle boulangerie, repasser devant les endroits où j'ai habité. J'étais à New York là en décembre. Et donc j'ai vécu il y a une dizaine d'années et vraiment mon mec n'en pouvait plus, c'est-à-dire que on refaisait c'était vraiment genre un truc commémoratif quoi. Je veux dire, le parcours de la reine d'Angleterre, elle habitait là, elle a mangé là. J'aime bien un petit peu ces routines et je suis très nostalgique.
Mais c'est pareil dans ton taf, genre tous les matins t'es devant ton ordinateur à telle heure?
Ouais, pas mal. C'est plus mais dans le taf c'est un peu différent, je pense. Je travaille beaucoup, enfin j'ai beaucoup de taf. Et là c'est plus une question de l'orga permet juste d'être dans des bonnes conditions et de pas se prendre la tête. Ça va être le lundi, mardi, j'ai beaucoup de mes réunions en interne. Et à partir du mercredi, en fait, je fais plutôt je rencontre les gens en fait à l'extérieur. J'ai pas mal de, au final j'ai quand même pas mal aussi de boulot de promotion de la marque, de rencontrer les personnes d'influence qui peuvent m'aider à juste donner de la visibilité aux collectionnistes. Donc, c'est assez cadré.
D'ailleurs, on peut commencer par une question comme ça. C'est quoi tes journées types, tes semaines types? Et surtout, c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien pour être plus productif? C'est un grand mot, la productivité, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques principes qui font que je suis efficace. Quels sont tes secrets à toi?
Ouais. je sais pas si j'ai vraiment des secrets, mais. Non, j'adorerais avoir une sorte de routine un peu à la genre quand on lit toutes les biographies des Jeff Bezos où en fait tu te lèves à 5 heures, tu vas courir, il y a un peu no pain no gain. Moi pas du tout quoi.
Ouais.
Non, franchement, je me lève le matin, c'est un des quasiment rares moments où je suis sûr que je vais voir Thelma qui est ma fille.
Bien sûr.
Donc j'adore en fait le matin je fais son bib, je fais mon café, on trinque littéralement. Et après il y a un moment où on est tous les trois avec mon mari et on s'habille, on fait nos routines beauté, etc. et on arrive au travail. Mais j'ai pas mal de, je suis beaucoup en réunion, elles sont très préparées, je suis bien entouré, j'ai un super comité de direction, j'ai un super chief of staff, et ça me permet en fait de dérouler ma journée. Et c'est pas si structuré que ça. Est-ce que j'ai des outils qui m'aident au quotidien? Pas plus que les outils que tout le monde utilise. Un bon WhatsApp, Slack. Je pense, en gros, c'est plus des principes de simplifier au maximum à chaque fois qu'on peut le faire, déléguer à chaque fois qu'on peut le faire. Et c'est plutôt ces principes-là qui permettent, je trouve, de bien travailler. On s'entourer de personnes qu'on admire, du coup, qu'on trouve plus intelligent que nous, plus talentueux sur leur domaine d'expertise. Être humble aussi, écouter en fait à chaque fois Moi, j'ai beaucoup moins de clients que tous les sales qui les ont au téléphone toute la journée. Les bonnes idées viendront d'eux beaucoup plus que de moi. Donc, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Le soir, je fume une clope et je bois une bière.
Ça, c'est une bonne routine. On en vient à le collectionniste. Oui, c'est le collectionniste, c'est pas The Collectionist.
Ouais, le collectionniste.
C'est le collectionniste, pardon. Je sais pas pourquoi je dis The Collectionniste. J'imagine que pas mal de gens font ouais, erreur. Hein,
beaucoup.
Je suis pas le seul, rassure-moi. Le collectionniste, c'est quoi la genèse? Raconte-moi la comment on appelle ça, le mythe fondateur.
Ouais. Bah, le mythe fondateur, c'est justement mon ancien associé qui était parti à Barcelone, qui avait loué un super appart sur une plateforme assez connue pour louer des apparts. Et il était arrivé, c'était censé être un truc hyper chouette, c'était pas hyper propre, les équipements fonctionnaient pas, la clim fonctionnait pas, au final, il y a pas de plein de frigos, etc. À ce moment-là, il n'y a pas eu tout de service, d'expérience ou autre. Et il s'est dit qu'en fait, il n'avait pas eu d'autre idée que quelques plateformes pour louer cet appartement. Et qu'en fait, sur un segment haut de gamme, il n'y avait pas une marque, aussi bien côté propriétaire que côté locataire, où on allait confier son bien ou alors chercher un bien. Donc ça a commencé comme ça il y a une dizaine d'années maintenant.
C'est quoi, 2013 ?
2013, exactement. Et on s'est lancé sur deux... moi, je l'ai rejoint plus tard, je l'ai rejoint un an après. Avec Elliot qui était le troisième associé.
Vous étiez potes ? C'était quoi ? C'était...
Olivier, je l'avais croisé dans tout ce parcours à Henri IV et après lui était aussi à HEC.
Okay.
On a 2 ans d'écart. Et Elliot, non, je l'ai rencontré via le collectionniste. Après, on a plutôt été potes, tous. Et Elliot s'occupait du marketing et on co-dirigeait la boîte avec Olivier. Et on a commencé par être deux destinations, deux villes Saint-Tropez. On s'est donné un été en se disant, honnêtement, on ne connaissait, aucun de nous n'avait bossé dans l'hospitalité avant. Donc, on avait réussi à trouver une trentaine de maisons avec un objectif de chiffre d'affaires qui était finalement assez petit comparé à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais on l'avait explosé.
C'était quoi les... Tu te rappelles des chiffres?
Franchement, je ne me rappelle pas du tout.
Ouais.
Je pense que c'est ce qu'on ferait aujourd'hui en une semaine. Enfin, c'était vraiment...
assez ridicule comparé à ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Mais c'était votre proof of concept. C'est-à-dire, on a deux destinations. Enfin, on a deux maisons, en fait, c'est ça?
On avait une quarantaine de maisons.
D'accord.
Deux destinations, Saint-Tropez et Deauville.
Ouais.
Et ouais, c'était vraiment un proof of concept, mais même pour nous. Enfin, ouais. Avant que ça soit pour d'autres, des investisseurs, un marché, enfin, des journalistes. C'était avant pour nous. On s'était dit, on se fait un été et on voit, en fait...
Vous aviez lâché votre job à l'époque ?
Ouais, moi j'avais lâché mon job, Elliot aussi, et Olivier était sur plusieurs projets.
D'accord.
Mais du coup, on s'était dit un été et on fait le bilan en septembre, ça marche, tant mieux, on continue, sinon on s'arrête. Et on avait dépassé notre objectif, donc c'est quand même cool. Et après, on a changé plein de fois de modèle, on a essayé de faire... un format plus Airbnb où c'était vraiment le propriétaire qui discutait avec le locataire en disant que c'était lui le meilleur pour décrire sa destination, sa propriété. Au final, le propriétaire, on s'en rend compte que, en tout cas, à notre niveau de prix, c'était autant un client que le locataire. C'est-à-dire qu'il a envie qu'on prenne soin de lui, qu'on s'occupe de tout pour lui, qu'on apporte une myriade de services, qu'on puisse lui donner accès à la conciergerie quand lui-même dans sa propriété. Au contraire, il avait envie d'avoir un intermédiaire, de pas du tout s'occuper de la réservation, de l'accueil, des pépins pendant la saison. Et donc, petit à petit, on a construit un vrai réseau parce qu'on a ces 8 bureaux qui nous permettent d'être proches avant tout du propriétaire. Et après, de mieux connaître nos destinations et de pouvoir donner tous les bons tips, tous les bons conseils à nos guests. Mais on fait vraiment la totalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire ce travail de curation des maisons. On a trouvé les plus belles maisons dans chacune des destinations. On les inspecte, on vérifie, on fait une liste de recommandations pour nos proprios. Et après, tu as un service de conciergerie où tu peux demander ce que tu veux. Donc, tu veux faire une demande en mariage, tu veux faire un tour d'hélico, tu veux faire un tour de chien de traîneau, faire du ski avec un champion olympique, faire du cheval sur les plages de Comporta. On peut vraiment tout organiser pour toi.
Trop bien. peut-être pour organiser le truc, on va faire ça en sous forme de milestone. J'aime bien repartir du début jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes en fait de le collectionniste. À quel moment vous avez pivoté? Tu parles de plusieurs pivots, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez pivoté à chaque pivot. Il y a les levées de fonds, forcément, il y a les ouvertures de bureaux, il y a les premiers recrutements, il y a tout un tas de thématiques que j'ai envie de diguer. Mais ouais, entre 2013 et 2023, il s'est passé un milliard de trucs, quoi. C'est fou. Ouais. Et c'est peut-être difficile pour toi aussi de te remémorer tout ça, mais c'est un bon moment d'introspection.
Ouais, ben pour quelqu'un de nostalgique, c'est top. J'ai le meilleur exercice. Mais non, c'est marrant parce que avec plaisir. Après, genre, je trouve que c'est difficile de trouver les jalons, mais si on reprend, il y a une dizaine d'années, il y a eu ce proof of concept, effectivement, sur deux destinations, Deauville Saint-Tropez. On passe notre premier été et assez rapidement, on est allé chercher des fonds. Olivier, mon ancien associé, était lui-même avait un fonds d'investissement qui avait mis quelques billes au départ dans le collectionniste.
Okay.
Et donc, il était excellent, enfin, dans la relation investisseur, dans le belly dance, en fait, invest.
Et donc, la danse du ventre invest.
Exactement. Et on a eu nos deux premiers investisseurs qui nous ont rejoints en décembre 2015.
D'accord, donc 2 ans après.
Ouais.
Et juste là, le modèle économique à l'époque, c'est quoi? C'est je gère la maison. Enfin, explique-nous, c'est quoi le modèle économique à l'époque?
Pour le coup, il n'a pas changé. C'est-à-dire, on prend la maison et en fait, on prend un fee sur la location.
Okay.
Notre fee moyen, il va être de 20%. Il y a certaines propriétés où ça peut être plus important, mais parce qu'on s'occupe vraiment aussi de staffer la propriété. Donc, des équipes de ménage, un cuisinier. Donc, c'est tout simplement, en fait, de la conciergerie qui est naturellement intégrée. Mais ça a toujours été au succès. Donc, sur les demandes entrantes de propriétés, on retient que 3 à 5%, en fonction un peu du moment, des propriétés qui sont proposées. Déjà pour être sûr d'avoir une destination où on opère bien. Et après, tout simplement, la qualité des propriétés.
Qu'est-ce qui fait une bonne propriété d'ailleurs?
Ça, c'est vraiment une question un peu à 100 plaques parce que ça dépend vachement de la destination. C'est-à-dire que si tu pars au Cap Ferré, je ne sais pas si tu connais
la destination.
Mais du coup, typiquement, les 44 hectares, donc c'est la pointe du Cap Ferré, tu es quasiment sur la mer. T'as pas de piscine, mais tu vas chercher autre chose. C'est-à-dire que t'es première ligne. Bah, c'est vraiment les petits mouchoirs, quoi. Donc, t'as la plage, tu vas bouffer avec le agriculteur. C'est des maisons souvent qui ressemblent à des cabanes très luxe, hein. Mais et c'est marrant parce que dans cette destination, c'est le summum du chic. Enfin, et c'est hyper chouette. Et c'est vraiment l'esprit aussi de la desti. En revanche, tu peux pas transposer ça à Ibiza ou à Saint-Tropez où c'est quand même plus staffé. T'as des maisons qui sont beaucoup plus t'entends plus moderne, mais en tout cas dans tous les cas plus travaillée, plus bourgeoise, et c'est un peu tout le temps la même chose, pareil côté conciergerie notamment. Bon, on arrivera de toute façon à l'épisode Covid dans les grands milestones, mais à un moment les Britanniques pouvaient uniquement aller au Portugal, c'était un orange flag, c'était pas red flag comme le reste de l'Europe, et donc on a eu cette clientèle britannique super friquée qui arrivait en jet privé à Comporta, qui est un village de pêcheurs à 1h30 au sud de Lisbonne. Bon, maintenant qu'il y a des propriétés assez incroyables, mais dans le service, ça reste quand même un esprit assez bohème. Enfin, vraiment plutôt bobo que juste bohème.
Bobo chic.
Voilà. Et en fait, ils demandaient des chefs étoilés et on leur disait « Ah, mais nous, en fait, on a une cuisinière. » Et là, vraiment, on a du bol parce qu'elle parle anglais, en fait. Mais il y a pas de chef étoilé dans le coin. Donc, chaque destination a un peu ses critères. C'est la même chose pour les propriétés.
Ouais.
Donc maintenant, on a vraiment une liste de critères par desti où on va, par exemple, à Ibiza, une maison qui a pas la clim, c'est rédhibitoire chez nous parce que c'est pas confortable, en fait, pour l'été. En revanche, typiquement, au Cap Ferret, en Bretagne, au Cap Ferret, c'est des choses qui passent très bien.
C'est à la carte. Ouais.
C'est un peu à la carte.
D'accord. Ok. On continue les milestones, mais je t'ai coupé au moment où tu disais que voilà, finalement votre modèle économique n'avait pas tant changé que ça.
Non. Ça a été plutôt la manière de l'opérer, c'est-à-dire d'être intermédiaire ou non, de demander au propriétaire de faire l'effort ou pas. Très rapidement, je pense que ça a été plutôt un switch sur la vision du propriétaire et de se dire en fait, c'est pas du tout. Il faut le voir non pas comme un fournisseur, mais vraiment comme un client, et lui apporter en fait. ce service et qu'il soit hyper peace of mind, qu'il ait vraiment l'esprit léger sur la gestion de sa maison. Mmh. Donc, on trouve le client, évidemment, et qu'après, on opère toute la partie accueil, gestion du séjour, et que lui, il parte en vacances, qu'il kiffe, qu'il relax, revienne, ouais. Sa maison soit dans le même état ou un meilleur état que quand il l'a laissé.
D'ailleurs, les propriétaires, c'est souvent des résidences secondaires, ça peut être des résidences principales aussi.
C'est 95% de résidences secondaires.
Ouais.
Il y a un peu de résidences principales et il y a aussi un peu d'investissement locatif. En fait, il y a pas mal de personnes qui ont construit, par exemple, ils ont construit un chalet pour eux, un chalet pour de la location, purement pour de la location. Donc, on peut aussi avoir pas mal de gens qui ont investi que pour de la location. Mais donc non, il y a les deux, mais c'est essentiellement des propriétaires en direct de résidences secondaires et qu'ils utilisent.
D'accord, très bien.
Donc non, ça, je pense premier jalon. Le deuxième jalon, ça a été la société se développe bien. À ce moment-là, on bossait sur un format un peu variabilisé, type freelance, de tu développes une destination. Donc pour nous, c'était pas mal parce que si la destination marchait pas trop bien, au final t'étais un peu payé à la com. Si la destination cartonnait, ben on avait l'argent pour bien te payer, pour toi aussi c'était un bon deal. Au final c'est plutôt l'inverse, c'est à dire genre on mettait des gens en difficulté quand ça marchait pas hyper bien dans la destination, ils se retrouvaient avec rien, et quand la destination fonctionnait hyper bien, en fait c'est de l'argent dont on aurait eu besoin,
ouais.
Pour développer les autres destinations, se lancer à investir. Et donc ça, c'était le moment où on avait un peu un réseau de représentants locaux. Donc, qui était pas en fait affiliés à la société, ils n'étaient pas sur notre payroll, ils n'étaient pas employés, ils étaient vraiment freelance en fait, un peu apporteurs d'affaires, un peu sales.
Et c'est quoi, est-ce que vous étiez frileux d'investir beaucoup d'argent dans des gens?
Mais parce que déjà, on n'avait pas beaucoup d'argent à investir, donc ouais. c'était un peu un pari que tout le monde faisait sur le développement d'une desti, et quand ça fonctionnait bien, la personne gagnait très bien sa vie. Donc, mais je trouve que aujourd'hui, avec du recul, on en avait à peu près une quinzaine, donc ça nous permettait aussi d'ouvrir beaucoup de destinations rapidement.
Ouais.
Mais je pense qu'on aurait à refaire. Non, quand on l'a refait, on l'a fait très différemment, et en fait, on a choisi des destinations qu'on voulait ouvrir, sur lesquelles on a investi.
Ouais.
Sur lequel on a pris des personnes en fait.
Vous avez été moins opportuniste finalement.
Je pense, et c'était aussi. C'est marrant parce que au début de la startup, t'as souvent ce côté comment on est scalable, comment en fait on arrive à grandir très vite sans augmenter les coûts fixes. Enfin, tout le monde cherche un peu une sorte de recette miracle justement pour que la société grossisse très très rapidement. De manière super, sans prendre trop de risques.
Ouais.
Et à la fin, je pense.
Ça marche pas.
Ouais. Enfin, je pense en vrai, une société, ça prend du temps à se développer. Si tu veux construire, nous, c'est très adapté aussi, c'est une marque.
C'est une marque B2C
dans le luxe. En fait, construire une marque, ça prend du temps. Et c'est de bien faire les choses. Et bien faire les choses, c'est avoir des équipes collectionnistes qu'on peut former, dans nos standards. Donc, au final, on a un peu rétro-pédalé de ce format-là. C'était à peu près au moment de la deuxième levée de fonds. La deuxième levée de fonds, c'était avec un fonds qui s'appelle Red River West, qui est souvent associé à Artemis parce que c'était un de leurs premiers eux-mêmes investisseurs. Donc, on a Artemis étant la holding de la famille Pinault.
D'accord.
Donc, pour nous, c'était aussi une super validation de
du luxe, du
monde du luxe. C'était aussi une bonne manière d'avoir ce point de vue luxe en fait dans les discussions qu'on pouvait avoir. Donc ils ont notamment toutes les marques du groupe Kering, Gucci, Bottega, Saint Laurent, Pomellato, etc. Mais ils ont aussi typiquement dans le voyage les croisières Ponant.
D'accord.
Qui sont un peu les meilleures croisières au monde. Donc non, c'était génial pour nous. Ça va faire pas mal de perspectives. Et c'est un fonds qui est franco-américain. Et donc qui aide les champions locaux français, européens à être de l'autre côté de l'Atlantique, à se développer aux États-Unis. Donc ça, c'était un peu le plan.
Ouais.
Qui s'est pas réalisé.
Pourquoi ça n'a pas marché?
Je pense. Ça a été une crise de croissance. J'imagine que c'est un peu comme une crise d'ado, mais version boîte. Et à ce moment-là, on avait de l'argent. On a racheté notre première société, qui était une société en Espagne, qui faisait exactement la même chose que nous, qui était une des sociétés, peut-être la société leader sur Ibiza. Et je pense que tout simplement, ça va, il s'est passé beaucoup de choses en même temps. On a un peu perdu la vision, on a un peu perdu, quand on parlait de roadmap, de feuille de route, en fait, on n'avait pas un plan clair sur le développement de la société. Et on a eu un peu une panne de croissance, donc simplement une activité molle, mais pas du tout une panne de coûts. Donc, ça a créé tout de suite une tension sur la société qui n'était pas hyper bonne. Donc ça, ça a été un moment assez difficile pour la boîte, pour les équipes. On s'est séparé à peu près un tiers des équipes. On a enlevé la moitié des maisons. On a fermé la moitié des destinations.
C'est en quelle année, ça? 2015
2018.
2018. D'accord.
Avec vraiment ce côté stratégie du rosier de se dire on coupe en fait toutes les branches mortes, tout ce qui faisait pas de l'argent, donc on recalcule quasiment loc par loc là où on est sûr de faire des profits pour pouvoir bloom again, donc se redéployer et se redéplopper.
Et là, ça c'est dur à gérer avec les avec tout le monde en fait, avec les équipes, avec les propriétaires, etc. Vous leur dites quoi? Vous leur dites bon bah, ça va pas bien, donc on coupe tout?
Nous, avec les équipes, on a toujours été hyper transparents. Je pense que personne, t'es obligé. C'est-à-dire, les gens ont aussi le droit de savoir et de faire leur choix. En fait, de se dire, est-ce que j'ai envie de rester engagé dans cette société qui prend l'eau? Enfin, il y a clairement. Pareil avec des investisseurs. Enfin, et c'est marrant parce que aujourd'hui, une de tes questions en amont de ce podcast, c'est est-ce qu'il y a des sujets que tu ne veux pas aborder? Non, pas vraiment, parce que la transparence, c'est le cornerstone de notre culture où on partage nos chiffres, on est pareil avec nos investisseurs. Une fois que pour le coup, t'es investisseur chez nous, il n'y a plus de belly dance. On a juste notre gros ventre là.
Ouais.
Mais non, ça a été à la fois, ça a été horrible. Moi, ça a été une des périodes, je pense, professionnelles de ma vie les plus difficiles. On s'est séparé d'un tiers des personnes, la majorité que j'avais recruté moi-même. Franchement, on rentre à la maison, on se sent comme une merde. Et on a beau l'expliquer, en fait, c'est un peu sa responsabilité.
Ouais. Enfin, bien sûr. C'est toi le patron, donc c'est toi le responsable.
Ouais. Et après, ça a quand même, en 2019, c'était une bonne stratégie, la croissance a repris, c'est reparti, on a réussi à se redévelopper, réouvrir des bureaux. Donc, et c'est marrant parce que c'est une grosse partie de l'équipe à ce moment-là est encore ici. Et il y a vraiment un côté à la vie, à la mort. Ça a complètement aussi fait notre culture de boîte.
Cimenter la culture.
Ouais. Un peu comme un couple. Il faut des merdes pour...
Il faut des crises, ouais.
Ouais.
Mais pas trop non plus.
Non, c'est ça. Autrement, c'est franchement l'enfer.
Non, et le juste pour rebondir là-dessus, en fait, les cinq premières années, c'est quand même compliqué, c'est dur. Vous trouvez pas vraiment votre modèle, quoi. En tout cas, quand tu dis que vous êtes en crise de croissance, enfin, au début, peut-être pour refaire le truc, c'est vous avez trouvé un modèle. Les 20% en moyenne vous permettent de vivre, de recruter, d'avancer, de grandir. Néanmoins, dès que ça se grippe, la trésor, elle part à volo et c'est compliqué. Et j'ai envie qu'on parle aussi de la dimension levée de fonds. On lève combien d'argent? Est-ce que c'est suffisant? Enfin,
En gros, qu'est-ce qu'on valide sur ces cinq premières années? Je pense qu'on valide un effet de marché. C'est-à-dire qu'on se lance sur ces deux premières destinations en POC. Mais très rapidement, on opère sur une quinzaine de destinations. On se rend compte qu'on a des demandes un peu partout dans le monde. À un moment, on avait même des maisons à Koh Samui. Enfin, donc, et ça, c'était très difficile à opérer. Donc, c'est typiquement ce qu'on a coupé quand on a dû revoir un peu notre plan de développement.
Vous étiez un peu en mode yes man. On dit oui à tout et
c'est un peu ça.
On est chaud, quoi.
Ouais. Sauf que à la fin, vraiment, on se prend un camion, quoi. C'est pas. Je me rappelle plus de la fin de yes man, mais j'imagine c'est une comédie amoureuse un peu.
Ouais.
On disait oui à tout, on voulait tout tester. Et je pense aussi, on était beaucoup moins dans le contrôle. Enfin, tous ces outils un peu chiants dont je parlais au début. C'est quand même, en fait, on a une responsabilité envers les équipes et en vrai aussi nos investisseurs qui nous donnent de l'argent, enfin qui croient en nous. Je pense que ça a été de beaucoup plus cadré. Et on l'a appris de la manière dure, de faire attention à son argent, de bien penser à chaque investissement. Non, ces 5 premières années, ça a été une validation du modèle. Ça a été aussi des chemins qu'on a pris qui ont bifurqué. Mais ça, j'imagine que dans toutes les histoires de boîtes, ça fait part. Enfin, c'est un peu le jeu. Ça a quand même créé aussi une équipe fondatrice, une grosse partie qui est encore là, notamment dans mon comité de direction. Donc non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a validées. Mais oui, quand ça s'est grippé, en fait, ça s'est grippé, je pense, quand on a fait notre première acquisition. Et notamment parce que nous-mêmes, on était trop jeunes et en vrai un peu frêles pour intégrer une boîte. Typiquement, l'année dernière, on a racheté 4 boîtes. Et ça reste des sujets d'intégration, des sujets super compliqués parce que c'est des sujets hyper humains. T'as beau avoir tous les playbooks, de l'expérience, en fait, c'est people and communication. Et c'est difficile de bien le faire. Du coup, je pense qu'à ce moment-là, nous, on était juste pas prêts. Et c'est marrant, je trouve que c'est vraiment cette acquisition qui nous a fait vriller. Parce que d'un seul coup, quand l'intégration se passe mal, ça prend toutes les ressources, toute l'attention, toute l'énergie de la boîte. Et
tu perds la vision, enfin tu perds
exactement.
Tout ce grip, quoi.
Okay. Donc ça a été 2018-2019. Après cette stratégie du rosier, enfin un mot quand même chouette pour dire on enlève la moitié des maisons et on sépare malheureusement d'un tiers des équipes, mais la croissance repart à balle. Donc là on se dit
qu'est-ce qui fait qu'elle repart, tu penses? Qu'est-ce qui fait qu'elle repart big time?
Franchement juste de
focaliser sur les bons trucs, quoi.
Ouais, c'était aussi justement de pas du tout faire 10 trucs en même temps, mais de faire un truc bien, une chose à la fois, et un peu la stratégie du tiroir, c'est vraiment ranger le tiroir. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, on l'a appelé la stratégie Marie Kondo. Bon, déjà, elle était un peu plus à la mode que maintenant. J'ai l'impression qu'elle fait partie de maintenant, elle était un peu cancel, mais bon. Et c'était très vrai, c'est-à-dire, on peut pas être aussi bon en gérant 10 projets qu'en gérant 1 projet. Et donc, on avait une petite liste de destinations, 2 propriétés, et on devait en fait toutes bien les louer, les inspecter, accueillir nos clients. Donc, c'était vraiment juste de se refocus à ce moment-là et de bien mettre les ressources au bon endroit. Donc, la stratégie Marie Kondo. et après, à partir du moment où c'est reparti, donc nous, ça c'était 2019, 2020, on se dit « Ok, mais c'est notre année. » Enfin, là, 2019, c'était notre année de retournement. 2020, c'est notre année d'expansion. Évidemment, enfin, comme personne. Enfin, j'imagine, voilà, ce sont des gros mythos. Mais on n'avait pas vu le Covid venir. On commençait à en discuter fin janvier. Typiquement, à notre board, on a Alban Grégé, qui est DG d'Artemis, donc qui voyait quelque chose s'est arrivé côté Asie avec... le groupe Kering qui était un peu en amont, enfin qui voyait les choses bien plus que nous. Et bon, enfin le même débat que tout le monde, petite grippe ou fin du monde. Bon, entre les deux.
Oui, c'est pas la fin du monde, mais c'était un peu la merde.
C'était quand même une grosse grippe.
Ouais.
Et du coup, nous là-dedans, on a eu énormément de chance parce que on était sur un produit à un marché qui a fonctionné, c'est-à-dire un produit louer une maison. Les gens ont plutôt sollicité ce produit-là pour leurs vacances à ce moment-là. Les gens n'avaient pas envie d'être dans un hôtel, autour d'une piscine avec des gens qu'ils ne connaissaient pas, autour d'un buffet avec un mec qui tousse dans son coude et ensuite tu récupères la tranche de saumon. Donc, je pense en fait, on avait le bon produit et deux, on était sur un bon marché parce que la France... Nous, c'est un double marché. On a beaucoup de clients français, locataires, et on a beaucoup de propriétés. Donc, les frontières étaient hyper fermées. Et en 2020, 50% en fait de nos clients étaient français, ce qui était 20% avant. Quasiment toutes nos locs étaient en France. Donc ça et le dernier point on avait déjà une société en Espagne et en fait. Pour le coup, les aides aux entreprises, tout ce qui était chômage partiel, etc., étaient incroyables en France. On a pu garder toutes les équipes. Et en fait, quand c'est reparti un peu comme une balle en juin-juillet, on recrutait le 1er août pour faire des check-ins. On recrutait les gens le jour même en fait pour accueillir des clients parce que forcément, on n'avait fait aucun recrutement en amont. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et quand la personne arrivait, c'était en mode « Ah, mais c'est ta sœur qui t'a amené à l'entretien. Et elle fait quoi, elle, demain ?» enfin, donc c'était un été un peu fou, mais non, on a eu beaucoup de chance.
C'était un bel été, donc c'était plutôt une année de croissance alors pour vous.
Ouais, nous on a fait 25% de croissance.
Wow.
Aujourd'hui, à notre connaissance, on est la seule société dans le travel alors fait de la croissance en 2020. Et maintenant qu'on a quand même vu un paquet d'invest, un paquet de gens, que je le dis à chaque fois, personne m'a dit non, donc je crois de plus en plus. Donc non, ça a pas été une belle année. Enfin, 25% de croissance, c'est beaucoup de chance en 2020, mais ça a été une année hyper dure parce qu'on n'arrêtait pas de faire des bookings, les défaire, parce que là, entre temps, une frontière fermée, le groupe pouvait plus se déplacer. Donc c'était une année comme pour tout le monde, hein, intense. Mais quand même, on a eu beaucoup de chance.
Bah ouais, c'est ouf.
Et derrière, on a été sollicité par pas. Donc ça, je pense, c'est un gros milestone. Mm. Et derrière, on a été sollicité par pas mal de petites agences qui nous ont, en fait, nous ont dit, bon ben, bah, finalement, on a fait un bon été, mais en vrai, on n'est pas passé loin. Mm. En fait, ça fait 15 ans. Nous, sont nos principaux concurrents, sont les petites agences locales dans chacune des destins. Et honnêtement, ce sont les meilleurs. Hein. Ils connaissent la destinée par cœur.
Les Barnes, les trucs comme ça ou...
Ouais, t'entends, ils peuvent être franchisés ou ils peuvent être complètement indépendants, genre Michel Immobilier du coin.
Ouais.
Et les mecs sont bons, connaissent bien leur maison, connaissent bien leurs clients. Ça fait 15 ans qu'ils l'ont, 15 ans que les clients reviennent. Ils connaissent la conciergerie, le mec qui fait le petit bateau, le pêcheur pour te sortir.
Mais ils n'ont pas la marque.
Ils n'ont pas la marque et surtout, ils n'ont qu'une desti. Donc, c'est-à-dire, genre, si tu vas tout le temps à Portovec, c'est trop cool. Mm. Mais après, si tu vas à Megève, ça ne sert à rien d'appeler ton mec de Portovec. Ouais. Idem, si après tu repars à Ibiza, Mykonos. Mm. Et c'est ça, la grosse différence, c'est que, effectivement, nous, on opère sur une quarantaine de destinations. On a un CRM aux petits oignons. On sait que tu prends un thé vers le matin, que tes enfants, ils ont tel âge, quel anniversaire de ton mec, ta femme à ce moment-là. Donc, ouais, c'est notre, c'est normal, c'est pas les mêmes sociétés. Mais tout ça pour dire qu'on a été pas mal sollicités et à ce moment-là, on a un banquier, on est toujours un banquier dans l'histoire. Il y a un banquier qui nous dit, ah, mais racheter une petite société ou racheter une grosse société, c'est la même chose. C'est le même investissement, honnêtement, autant aller pour le gros truc. Ça, c'est un gros mytho parce que depuis, on a racheté des petites sociétés, des grosses sociétés et non, c'est pas du tout la même chose. Mais on a commencé à discuter avec une société qu'on admirait, qu'on admire toujours énormément, qui s'appelle Brambleski et qui était le leader en Suisse et en fait qu'on a racheté en juin 2021. Et ça, c'était un autre effet du Covid. En fait, au moment du Covid, on est arrivé avec un plan qui était de se dire dans nos grosses destinations, on va créer des bureaux régionaux. Et en fait, si cette situation perdure, en fait, ces bureaux-là sont hyper ops, hyper opérationnels. C'est les gens qui trouvent les maisons, les gens qui les vendent, les concierges et les gens qui accueillent, en fait, les équipes qui accueillent nos guests. Et en fait, ces bureaux sont profitables. Il n'y a pas eu tout le développement, il n'y a pas le marketing, la tech, la finance, etc. Et c'était pour nous un moyen de se dire si demain on doit protéger un maximum d'emplois, de jobs, en fait, on peut complètement arrêter tous les développements et au moins garder ces cellules très opérationnelles, ces bureaux locaux. Et c'est pour ça qu'on a eu bureau aujourd'hui, parce que c'est le format Covid. Alors, on se rend compte que, en plus, le fait d'être local, on sert beaucoup mieux nos deux clients, le propriétaire, le locataire. Et le dernier point, c'était, par exemple, le ski, nous, jusqu'à ce qu'on rachète Brambleski. Franchement, on était un peu naze. Ça représentait 7-8% de notre chute d'affaires avant. Maintenant, ça représente 35%. Et il y a aussi, ce que je trouve assez cool dans, je pensais que le M&A, ça me ferait vraiment, chier. Et en fait, c'est, typiquement, Brambleski, c'est une boîte de 4 potes, britanniques et écossais. Qui se sont dit bah, nous on adore skier mais il n'y a pas de montagne là-bas, donc ils s'installent en Suisse et ils ont créé cette boîte, je pense au départ, pour pouvoir vivre de leur passion et gagner de l'argent. Et en fait, ils ont créé la plus belle boîte de location de chalet quasiment au monde. Donc
et vous avez gardé la marque?
Et pour l'instant, on a gardé la marque.
D'accord.
Je pense qu'il y aura une période de transition, mais c'est une marque qui est très forte en Suisse et notamment auprès des propriétaires. Donc, on la co-brand au maximum pour expliquer que Brambleski fait partie de la famille du collectionniste. Mais petit à petit, ça s'intégrera, je pense, au groupe, le collectionniste. Mais on prend notre temps, on n'est pas pressé sur ce type de sujet. Et du coup, on a une vision du M&A qui est un. Bon, c'est là, typiquement, la société qu'on a achetée en Grèce en décembre. C'est un frère et une sœur qui se sont retrouvés avec une maison à Corfou et se sont dit, bon, en fait, on ne trouve pas vraiment d'agence qui nous... Donc on lance notre société, et c'était leader en Grèce en fait de la location de maisons de luxe. Donc je trouve qu'il y a toujours des histoires assez cool, ça reste des sociétés
oui,
moyennes,
enfin, humaine, ouais.
Exactement. Donc
et puis qui a priori quand tu travailles dans le tourisme, t'aimes bien les gens quoi. Enfin tu reçois des gens, tu mets les gens bien, etc. Donc c'est des gens a priori qui sont sympathiques.
Ouais, exactement. Et je pense encore plus quand on travaille sur notre produit en fait. Nous c'est des grosses maisons. Ça nous est arrivé une ou deux fois d'avoir un couple. Maintenant on refuse parce qu'en fait ils se font chier, ils nous appellent genre toute la journée, ils s'embêtent. C'est des maisons, le profil un peu type, c'est au moins 5 chambres. Mmh. Tu vas à un ou deux couples avec les enfants, c'est très familial, 80% ouais. de famille. Et après, ou alors, bon, après, Ibiza Mykonos, c'est quand même des party islands. Mmh. Tu vas avec ton groupe de potes et tu vas faire la fête. Enfin, c'est vraiment des produits pour le groupe. Donc, je suis d'accord mmh. avec toi, c'est pas des gens tristes en face.
Ouais.
Et après, le truc qui est cool, c'est de se dire. Pas comme Starbucks, en gros, non, en fait, le grec connaît mille fois mieux le marché grec que toi, le mec qui vit dans les montagnes depuis 15 ans, pareil, en fait, avoir l'humilité de se dire, c'est eux savent mieux que nous. Et donc, quand on achète la société, à chaque fois, on va leur demander de devenir le référent pour les Alpes, pour la Grèce, et nous, on met toutes nos ressources à disposition, toutes les maisons qu'on peut avoir dans la destination, nos équipes, et c'est eux qui prennent, en fait, le lead sur le développement de la région.
Donc, vous les intégrez.
On les intègre, mais plus que ça, en fait, il y a un côté, on les glorifie. Enfin, on leur dit, vous êtes les champions de cette région. Nous, on
ils deviennent salariés.
Ouais.
Ok.
Tout le monde devient, tout le monde passe ouais, sous le drapeau collectionniste. Et encore une fois, pour les pousser à juste développer la région, mais sous notre marque.
Trop bien. Cool. Et donc là, pour finir sur les milestones, Covid, vous en sortez plutôt pas trop mal. Vous faites des acquisitions pour grandir de manière, pas en organique, mais en externe. Là, je ne sais plus comment on sait quoi le terme exact. Et avec une vision de devenir the biggest player in the world.
Ouais. on l'est déjà en Europe.
Ouais.
Après, c'est un marché qui est hyper fragmenté. On parlait justement de ces petites agences locales. Qui restent les principaux concurrents, mais il y en a des centaines, peut-être des milliers.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a une grosse consolidation du marché à entreprendre sur l'Europe avant de se lancer sur tous les autres marchés dans le monde. On a quelques destinations lointaines comme les Caraïbes qui fonctionnent très bien, Cape Town, Turks and Caicos, Costa Rica. Mais aujourd'hui, notre point fort, c'est quand même l'Europe. Et ouais, l'idée, c'était à un moment, on avait un peu deux options qui étaient de travailler notre profitabilité, enfin, j'imagine comme beaucoup de startups, et donc de se mettre un peu sur un chemin de profitabilité et de revente de la société, ou se dire on va lever beaucoup d'argent pour pouvoir construire quelque chose qui a déjà été construit et qui est la première licorne sur notre secteur. Donc, de location de maisons de luxe avec service. Et donc là, c'était pas mal de choses. C'était de se dire, est-ce que déjà le marché est assez profond? Est-ce qu'il y a des gens assez fous pour nous suivre? Comment ça se fera par acquisition, mais aussi par développement organique? Et finalement, on a pris cette option-là. Et c'est peut-être le dernier milestone en faisant rentrer Island, qui a un fonds de grosse. Donc, c'est simplement un moment d'accélération extrême de la croissance. Et avec qui on a levé 60 millions
fin
d'année dernière.
Fin d'année dernière, d'accord. Avec l'objectif de devenir une licorne.
Exactement.
Ouais. Et là, vous êtes valu à combien aujourd'hui?
Oh, ça, je peux...
Vous en pouvez pas le dire. Question piège. Et d'ailleurs, votre PNL, ça ressemble à quoi? Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être pas rentable parce que vous êtes dans une phase d'investissement énorme. Mais...
Non, nous, on fait hyper attention. En fait, en 2020, on s'est rapproché de la profitabilité d'un coup parce que on s'est retrouvé à embaucher en last minute.
Ouais.
Et vu qu'on savait pas à quelle sauce on allait être mangé, on avait quand même serré les coûts au maximum pour protéger la boîte. Et on s'est rendu compte qu'on y arrivait. Donc après ça, on a toujours fait hyper attention à notre profitabilité. Alors, on est profitable en mode startup, c'est-à-dire qu'on a un EBITDA à zéro. Mais pour nous, c'est clé de pouvoir ne pas dépendre d'argent externe avec les nombres, enfin, quelques crises qu'on a pu pas traverser. Donc, non, aujourd'hui, ça ressemble à ça. On fait L'année dernière, on faisait 100 millions de volume d'affaires. C'était, l'objectif de cette année, c'est 140. 25 millions de chiffre d'affaires, c'est juste notre commission. Mmh. Et effectivement, avec un EBITDA qui est neutre.
D'accord, trop bien. Le... Tu parlais donc de... J'ai envie qu'on parle de branding. Le collectionniste Flokinel. peut-être qu'il faut vous changer quelque chose là, non? Moi, je pense que The, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on vend de plus que voilà des maisons quand on vend, quand on achète, qu'est-ce qu'on achète de plus que des maisons quand on achète le collectionniste?
C'est marrant parce que cette discussion, on l'a eu 500 fois et je pense encore plus maintenant en tant que jeune parent. En fait, ce qu'on achète, c'est du confort. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait attention, on a sélectionné les plus belles maisons. On peut avoir le champion de cocktail aussi d'Espagne. Enfin, on peut faire des trucs vraiment de ouf. Mais à la fin, je trouve que c'est vraiment le côté un peu seamless, c'est-à-dire sans friction, de te dire... Quand t'as un petit et que c'est déjà l'enfer de voyager, t'as l'impression que c'est genre la caravane du désert, quoi. Ben là, l'avantage, c'est le lit bébé, il est déjà là. Les courses, elles ont déjà été faites. Même si t'as besoin de lait, d'eau potable, d'un biberon supplémentaire, de tétine. Enfin, en fait, on peut tout te trouver. Et toutes tes réservations au restaurant, tous tes beach clubs, tes activités, les kids clubs, enfin, tes entrées en boîte, en fait. À Ibiza, on a un service où... on t'attend devant et jamais tu te fais refouler.
Mmh, c'est pas mal, ça. Ah,
ouais, c'est pas mal. Ça dépend des gens. Moi, j'ai jamais eu trop ce problème. Par exemple, mon meilleur pote, là, il a vachement ce problème. Bah, c'est un service qu'il, voilà, qu'il adore.
Bah ouais,
mais du coup, non, je pense que c'est vraiment que tout soit... tu profites au maximum de tes vacances. Mmh. Et je pense... on en parlait un peu avant, mais l'année, c'est hyper intense. Ouais. On bosse beaucoup, on a plein de projets... et en fait, le moment avec tes potes, avec ta famille, avec tes enfants, ah, c'est finalement, c'est pas beaucoup de semaines, quoi. Mmh. Et t'as envie de que ce soit le plus cool possible.
Ouais, carrément. Ok. Donc le confort. On achète le confort avant tout.
On achète le confort. On achète, je pense, le travail de curation aussi, d'être sûr que les maisons. C'est ça la différence avec la majorité des plateformes, c'est-à-dire que les maisons, elles sont sélectionnées, elles sont toutes inspectées. Donc t'es sûr, ouais, en fait que c'est une maison dans les standards collectionnistes, dans tes standards.
T'as pas de surprise.
T'as pas le côté genre c'était mis en photo. Non, bah c'est ouais,
c'est l'enfer souvent quand même, ouais, ça. Hein. Donc, c'est le vrai problème. C'est là le plus gros pain d'ailleurs, je pense, non, auquel vous répondez.
Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le côté on est hyper honnête. Enfin, on va être transparent. C'est marrant, on le fait aussi avec les propriétaires et les locataires. On va aussi dire à un locataire quand il y a la route des plages qui est derrière la maison. En fait, c'est genre trop bien, elle est à 2 minutes de la plage. En revanche, elle est à la route des plages. Donc, le soir, un peu le retour des plages, ça klaxonne, ça machin. Enfin, et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont dire, ah, mais pour moi, le luxe ultime, c'est le silence aujourd'hui, est-ce que je peux comprendre. Et d'autres personnes qui vont dire, le luxe ultime, c'est d'aller à pied à la plage. Donc, mais on va
donc
toujours.
Donc, vous prenez quand même la maison, mais vous êtes transparent sur le fait que, bon, potentiellement, le soir, c'est bruyant, quoi.
Ouais, exactement. Mais c'est marrant, on a. Pareil, on me demande souvent « Ah, mais tu refuses des clients. » Franchement, peu, parce que quand les gens construisent des maisons à Ibiza, alors pareil, il y a toute une partie super familiale, tout le nord d'Ibiza est hyper chill, etc. Mais évidemment, tu as 2-3 mecs agressifs, propriétaires, qui ont construit des maisons de teuf, qui se nettoient presque au Karcher à l'intérieur. Et du coup, si tu as un groupe et tu veux faire... un entraînement de garçon, ton anniversaire, et bien, ça fait peur. Mais après, il y a des maisons qui sont faites pour ça. Donc, à partir du moment où tu me dis, nous on y va pour ça, moi je dirais aucun problème. On va éviter cette maison-là parce qu'en fait, il y a des œuvres d'art au mur, le canapé coûte 30 000 euros et tu vas passer un mauvais moment, je passe un mauvais moment, le propriétaire aussi, en fait, ça va être chiant pour tout le monde. En revanche, ces trois maisons-là, c'est des maisons de teuf, tu peux mettre le son, tu peux, tu vas kiffer. Donc non, je pense en fait c'est bien accompagner le client après sur la desti, la propriété, le service de conciergerie. Donc ça c'est côté guest, côté propriétaire, on peut faire la gestion à l'année de ta maison, on t'a accès à la conciergerie aussi pour toi, quand t'es toi-même dans ta maison. Donc non, c'est ça qui nous différencie.
D'accord. Peut-être pour faire aussi le customer journey, j'aime bien le prendre comme ça, mais qu'est-ce qui fait que vous offrez un service de ouf. Déjà, en fait, comment est-ce qu'on entend parler de collectionniste?
Je pense une grosse partie de nos investissements sont sur AdWords, donc via Google. Et après, en France, la marque est assez connue sur notre audience. Je pense par la presse et par le bouche à oreille, essentiellement. À l'international, ça reste encore un défi à relever.
Qu'est-ce qui rend le collectionniste sexy pour la presse?
Pour la presse?
Ouais. Enfin, pour, en tout cas, ouais, les influ, enfin, la presse. Et pourquoi les gens parlent de vous, en fait?
Je sais pas, parce qu'on est un peu cool kids on the block. Enfin, non, mais je pense qu'il y a un côté, le portefeuille, ça commence,
C'est canon. Ouais.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant, forcément, quand on est passé par la chaussée, on a 2-3 potes banquiers. Et des 2-3 potes banquiers, ils me disaient, quand c'est un peu le moment des variables, on le voit, donc les mecs vont toucher, un énorme chèque à un moment. Et là, je passe dans les couloirs, enfin, entre vraiment comme dans les films, un peu les salles de marché, tu vois, avec tous les ordinateurs. Il me fait, je vois, il y a 3-4 ordi où les mecs, ils sont sur le collectionniste. En fait, ça fait partie maintenant de dire, je vais me faire un kiff, je vais louer une maison collectionniste, je vais me faire kiffer moi, je sais pas, mes parents, mes amis, ma famille.
Ça coûte quoi, une semaine chez le collectionniste?
C'est quoi?
Ça coûte quoi, une semaine chez le collectionniste?
En panier moyen, ça coûte genre 30 000.
Ouais.
Et peut-être sur nos semaines les plus chères, ça doit être 250 000.
Ok. Donc on est vraiment sur le haut du panier quand même. Hein. C'est...
Non mais oui. Non mais je pense que ça. Alors oui, mais il y a plein de moments où on fait les calculs et on se rend compte que t'en as pour 250-300 € par personne par nuit sur pas mal de maisons ou alors sur de la moyenne saison. Enfin, pas de la moyenne saison. Je te dis de Saint-Tropez en février, quoi. Vraiment, soit juin, soit septembre. Donc je pense que si tu c'est cher, c'est un produit de luxe. Enfin, je pense faut le dire parce que ça serait pareil un peu de
bullshit.
Ouais, enfin ça serait fou. Mais après quand tu le ramènes en ça reste je pense plus avantageux qu'un hôtel dans la même gamme de prix, dans le même standard. Donc
ouais, Cool Kids on the Block. Et cette hype, comment on la développe? Avec ton produit, tu vas me dire, mais pas que.
C'est marrant parce que c'est un peu comme je pense soit t'es cool au collège, soit t'essayes d'être cool, mais si t'essayes d'être cool, t'es pas si cool. Enfin, mais il y a pas vraiment de plan.
Ouais. Donc toi, t'es cool. Toi, t'es
non,
un mec cool.
Le collège, c'était cool.
mais t'en es quand même l'instigateur, quand même.
Ouais. Mais du coup, non, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Et non, c'est marrant parce que il y a pas longtemps, c'était mon CEO Ben qui était dans un travel event, donc vraiment un truc avec plein d'agents de voyage. Et donc c'est le moment où ben là t'as toute la concurrence, mais t'as plein de gens différents. T'as les mecs des yachts, t'as les mecs des jets privés, etc. Et là c'est vraiment c'est un grand concours de qui est la plus grosse et notamment qui a les clients les plus riches. Et donc à chaque fois les gens te racontent les histoires les plus
ouf.
Ouais, exactement. Et c'est des trucs un peu à la con du genre moi tous mes clients ils arrivent tous en jet et en fait nous on joue pas ce jeu là et quand tu payes 250 € par nuit par personne, ce qui est une grosse partie en fait de nos locations, t'arrives en Transavia, enfin tu fais ton pareil, enfin Air France, mais tu prends ton vol commercial comme tout le monde, t'arrives et tu te fais kiffer, mais je veux dire, en fait t'es CSP+, il y a pas de débat, encore une fois c'est cher, mais en fait, non, tous nos clients ne voyagent pas en jet. On en a certains, bien sûr, mais vraiment pas tous. Et je pense que c'est ce côté où souvent, ce qu'on nous dit, c'est on travaille un produit de luxe, mais on le fait aussi à notre manière. En faisant attention, en s'adaptant aux besoins et aux attentes des différentes personnes, mais ça n'a pas été tout le temps le cas. C'est-à-dire que je pense qu'on a été quand même le collégien à un moment un peu pas cool.
Ouais.
Parce qu'au début, quand tu commences à faire du luxe, t'as ta barbe de 3 semaines, t'as effectivement ta grosse
couffe
de cheveux bouclés, etc. Déjà, va convaincre tes propriétaires. Mais en plus, on regardait toutes les maisons de luxe, tous les codes des sites, etc. On récupérait la même fonte, le même bleu, le même. Et j'ai vraiment le sentiment, c'est un peu genre la première teuf que tu fais, genre un mariage ou je sais pas, un rallye, c'est un peu de la haute, où tu prends le costume de ton daron et clairement,
tu
il te va pas.
Ouais.
Il est trop grand, trop petit, j'en sais rien, mais en tout cas, il c'est pas le tien.
Ouais.
Et je trouve qu'au fur et à mesure, on a appris à être nous.
À vous écouter.
Notre premier catalogue, je pourrais te montrer, genre.
c'était un copier-coller de quelque chose.
Ouais, hein. Ouais. Et surtout, il était propre, ouais, mais il était un peu vide, quoi. Je trouve qu'au fur et à mesure, on a appris à être nous-mêmes. Et c'est pas du tout que moi. Honnêtement, c'est, je trouve toutes les équipes, enfin, on a plein de gens super connus, évidemment, dans nos clients. Et t'as le mec qui fait le check-in d'un footballeur hyper connu. Et en fait, après, il dit, le mec était génial, on a fait une pétanque, on a bu un Ricard. Et il crée, mais ça s'est fait parce que je pense, justement, c'est pas coller monter et c'est pas un service de palace. Si tu veux ça, on peut le faire sans problème. On peut mettre 3 personnes autour de la piscine, saper vraiment en smoking. Enfin, si c'est ton kiff, en plus, on va pas juger, on va le faire. Mais si c'est plus cool, en fait, on le fait aussi très bien, ce qui n'empêche pas d'être professionnel. Donc, je pense que c'est ça que les gens viennent chercher.
D'ailleurs, toi, ton personal branding, alors je sais pas s'il est travaillé ou pas, ou c'est quelque chose de très naturel, mais tu me regardes avec des yeux. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Non, mais est-ce que ça a été un frein? Ça a été un frein à un moment donné vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de ce que tu disais, va convaincre des propriétaires avec ma touche. Ça a été un frein. À un moment, est-ce que tu t'es rentré dans un petit costume bien propre et tu t'es rasé la barbe ou pas?
Ouais, il y a eu des moments, mais je pense que c'est pas des moments où j'ai été bon parce que c'était pas moi. Donc, je te dis pas que je porte le même souhait
quand tu
à une réunion d'invest, etc. Ouais. Genre, mais
tu mets une petite Oxford quand même.
Ouais, mais qui est quand même dans mon look, quoi.
Ouais.
Donc, je pense. Et c'est le truc cool, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on a aussi une certaine légitimité des chiffres, du développement de la marque. Et donc, je me dis, j'ai pas besoin, en fait, de la chercher ailleurs. Mais en ce moment, c'est un peu... tous les matins, genre, je pars et je suis en mode check de... c'est tellement canard, ce que je veux dire. Et check de la tenue par mon mec, en mode, ouais, c'est bien comme ça et tout. Et sa question, c'est en mode, ça dépend, tu vois qui est aujourd'hui. Et t'entends, une clé, oh, tu la pousses, genre, dans une chemise, enfin un truc. Et quand même, dans l'ensemble, non, je suis assez détente.
Ouais. Juste pour revenir sur le customer journey, bouche à oreille finalement, et la cool kids on the block, enfin le fait que. Et les gens parlent de vous, mais ça m'intéresse vraiment cette question parce que. Tu vois, avoir moi avec ma marque, etc. On essaie de faire de la presse. Et c'est toujours, c'est pas si simple d'avoir des articles. Tu vois, il faut de la nouveauté. Il faut. Alors toi, j'imagine que vous ouvrez des nouveaux marchés, donc c'est sexy. Vous levez des fonds, machin. Il y a toujours une actualité. Mais mine de rien, il y a des moments où il se passe pas grand chose et c'est quand même compliqué d'avoir.
Ça c'est le moment où c'est cool d'avoir une bonne agence de presse. Et je pense que
et d'ailleurs on embrasse Guillaume de DLX qui nous a mis en relation.
Exactement. Et Caro qui bosse avec nous non, je pense que c'est parce que eux-mêmes en fait ont leur réseau de journalistes et c'est un peu un travail au long cours, c'est pas justement des coups, c'est pas une info brûlante et donc on va la garder à un moment pour un journaliste avec qui on s'entend bien pour qu'il y ait un papier, pour qu'il y ait de l'actualité. Mais sur la partie plus lifestyle, c'est aussi plus facile de présenter la nouvelle collection, les nouvelles maisons, certaines maisons d'architectes, enfin une certaine déco, un côté vintage. Donc je pense que ça s'est fait assez naturellement et c'est aussi un super bon travail de l'agence.
Ok, customer journey, seamless, ils arrivent sur le site, non? Enfin, c'est quoi les premiers?
Ouais, t'arrives, je pense que la majorité des gens font une recherche sur Google, on travaille bien, enfin, on est assez bon en SEA et SEO, donc ça veut dire qu'on est tout en haut, soit en payant, soit sans payer. Et donc après, tu vas atterrir sur le site, tu vas atterrir sur la search, tu vas voir les maisons. Les gens consultent, 50% des gens consultent les 6 premières maisons et vont pas vraiment chercher celle d'après. Donc, je pense hyper important de bien identifier quels sont les critères qui sont importants pour toi. Très rapidement, tu vas faire une demande. Nous, on va vite essayer d'avoir un contact téléphonique. Pour une raison, on en parlait un peu avant, mais ton projet de vacances va complètement déterminer un peu ta destination, beaucoup ta propriété. Donc, tu me disais que tu avais un ou des enfants, mais
un bébé, ouais.
Et du coup, la mienne, elle a 15 mois. Et effectivement, Kids Friendly à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas du tout la même chose. Mais à partir du moment où ils commencent à marcher, puis moi en fait marcher à 2 ans, je sais pas, ils ont un côté un peu suicidaire, dès qu'ils voient genre 3 escaliers, ils se lancent. Donc parce que marcher à 7 ans, ouais. Bon, on connaît un petit peu le vide, enfin on ouais. a 2-3 appréhensions. Et donc nous on connaît toutes nos maisons. Mmh. Donc on peut te dire ah sur les photos ouais elle est trop chouette, mais ça c'est sera la pire maison.
Pas qu'il te freine.
Chaque pièce il y a une petite marche. Enfin moi typiquement il y a pas longtemps j'ai réservé une maison à Paros comme ça et la personne qui l'avait visitée me dit franchement avec Thelma tu vas péter un câble parce que il y a une minuscule marche. Mais et genre à chaque fois.
Ah ouais.
Donc en gros elle va se planter à chaque fois.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment hyper important. On t'arrive, on a cette discussion, pareil. T'es party boys et tu viens faire la teuf à Saint-Tropez, bizarre, enfin n'importe où, mais on va trouver la bonne propriété en disant celle-là tu peux faire la fête. Enfin même il y a une salle, il y a un petit club si tu veux pousser la musique, go.
Donc là vous êtes des équipes de sales H24 qui répondent?
Ouais.
H24.
Non, en la journée.
Ouais.
Après, maintenant, on en a un petit peu sur. On a des bureaux de Bordeaux à Grèce. Donc, bon, en vrai, ça décalage d'heure, ça va être 2-3 heures. Mais de plus en plus, typiquement en avril, on a 25% de nos réservations qui étaient faites par des Américains. C'est marrant parce que ça a pris. On oublie, mais l'année dernière, on avait à peu près 15%. L'année d'avant, en fait, c'était zéro. Enfin, c'était encore le Covid. C'était encore difficile, en fait, d'aller aux États-Unis. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, de plus en plus, on se dit, oui, hyper important de pouvoir être sur les mêmes créneaux horaires, les appeler. En fait, quand tu fais tes recherches, typiquement, si on discute avec un mec de Los Angeles, tu t'envoies un pigeon voyageur par jour, quoi. En fait, tu te lèves, toi, tu réponds, lui se couche. Donc, de plus en plus, ouais, on se dit qu'on va devoir couvrir au moins côté ricain, côté États-Unis, avoir une équipe pour pas répondre aux demandes. Après, une fois qu'on trouve la bonne maison, la bonne propriété, tu signes tes contrats, etc., et t'es mis en relation avec la conciergerie, là, ça va être vraiment...
Donc, les locaux. La conciergerie, c'est vraiment les locaux ou vous avez les conciergeries à Paris dans tous les bureaux?
On en a dans tous les bureaux.
Ok.
Et après, évidemment, quand t'es, enfin, la conciergerie de Visa, elle est à Visa. Donc, quand on a des bureaux régionaux, ils sont dans les bureaux qu'on a. Quand on n'a pas de bureaux régionaux, parce qu'il y a certaines destinations qui sont encore adolescentes, qui ne sont pas régionalisées. Et du coup, la conciergerie est ici. Et c'est les personnes ici qui vont visiter, qui vont trouver les prestataires, les tester, etc. Tandis que dans les destinations, ben, là, c'est beaucoup plus facile. Et plus souvent, c'est des gens du coin. Et là, ça va être, t'as différents degrés, t'as toute la partie un peu logistique, donc t'as location de voiture, mais c'est des trucs un peu bêtes, mais typiquement à Ibiza, tu peux arriver, perdre genre 5 heures. Enfin, tu vois, tu vas une semaine, tu perds 5 heures à attendre ta bagnole un 15 août. Nous, on a un système où en fait, ta voiture, elle est genre devant l'aéroport, tu ne fais pas la queue. Enfin, c'est réglé,
quoi. Il y a quelqu'un
réglé,
qui a fait la queue pour toi.
Ouais,
et puis, exactement. Comme il connaît tous les mecs, ça va très vite.
Ça va très vite. Et donc, en fait, la conciergerie, ça commence par ça. Et puis après, ça peut être un cinéma en plein air, un chef de paella, mais qui t'apprend aussi à faire la paella toute la journée avec toi, ta famille, une sortie en bateau à Formentera. Et c'est marrant parce que nous, on a toutes les demandes. On peut nous demander, je vais être... Shortens Club 55, enfin tous les endroits où c'est cool d'être, ils sont cool d'ailleurs, mais où c'est cool aussi d'être vu, on va pas se mentir. Et après on a aussi toutes les demandes inverses avec des gens qui veulent faire que des expériences un peu hors des sentiers battus, que personne ne fait, et aller pêcher avec un petit pêcheur local.
Mais c'est fort de pouvoir parler à tout le monde en fait. Il y a ce côté un peu c'est pas mainstream, mais en tout cas je suis capable de m'adapter à et d'attirer tout type de personnes, quoi.
Mais c'est vrai parce que c'est aussi dans les valeurs de la boîte d'inclusion. Et là on commence à on bosse avec une agence de marque à Londres et ils nous disaient il y a un sujet qu'on trouve que vous adressez assez peu alors que c'est vous dans la société, c'est-à-dire ça manque un peu de modern family, quoi. Dans nos catalogues, c'est vrai que
c'est papa, maman et les trois enfants ou les deux enfants.
Ouais, ils sont souvent genre plutôt blanc.
Ouais.
Et alors que c'est tellement pas vrai, c'est-à-dire que c'est tellement pas qui on est et c'est pas non plus nos clients.
Ouais.
Donc je pense que c'est hyper important de changer ça. Et c'est un peu ce qu'on disait sur être une marque. En fait, c'est c'est juste d'être justement qui tu es, quoi. Mmh. Et de te dire, si pour toi une famille, en fait, elle peut être de mille manières différentes, raconte-le, en fait, montre-le. Mmh. Et donc voilà, c'est aussi l'inclusion.
Trop bien. Donc une fois qu'on est sur place, on kiffe à balle.
Tu kiffes, en gros, t'as un concierge qui est dédié, donc t'as un groupe WhatsApp, t'as une application et t'as un groupe WhatsApp, un peu ce qui fonctionne le mieux pour toi. Nous, c'est toi le client, donc c'est toi qui décides. Ton appli, t'as tous les trucs, t'as ton planning, t'as tes réserves de resto, d'activités, de massage, de sortie bateau, tout ce que tu veux. Toutes les informations sur la maison, ton code Wi-Fi. Donc c'est un truc facile, comme ça, se partager avec tout ton groupe. Et après, t'as ton concierge qui est à disposition. Donc, tu veux changer tes plans, inviter d'autres potes, sortir sur un plus gros bateau, plus petit bateau. Ouais. En fait, on peut tout faire. Mm. Donc, c'est un peu ce côté là dont on parlait. Tu vois, un truc qu'on fait, qui est assez marrant, qu'on fait en Suisse, c'est ton concierge, c'est aussi la personne qui t'accueille et c'est aussi ton moniteur de ski. Et du coup, donc, t'arrives, il t'ouvre le chalet, il te présente le chalet. Il y a des chalets qui font 7 étages avec des piscines, tu vois, des poker rooms, un bowling, enfin, bon, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et le lendemain, ben, c'est le même mec que tu retrouves sur les pistes et c'est lui qui va te guider dans la station, tu vois, en te disant, ah, ben là, évitons cette piste-là, je sais pas, il a pas assez neigé ou au contraire, passons par là, c'est ensoleillé en ce moment.
Ouais, donc il n'y a pas de perte d'informations comme quand tu vas aux urgences, quoi.
Oh non, du tout. Et c'est même l'inverse parce que, par exemple, tu prends ton télésiège.
Ouais.
Si toi, tu discutes avec ton poussin et t'es en mode, ah, pff, hier soir, le chef, il était sympa, mais franchement, c'était un peu trop gras. Mm. Ce qui arrive à la montagne. Hein. Lui, en fait, il va naturellement prendre le télésiège d'après et pouvoir appeler le chef et dire... bon,
c'était un peu gras,
mollo.
Sur le beurre, sur la crème.
Et plus sur la détote. Donc, on arrive même à améliorer ton expérience, genre tout au long de ton séjour, avec ton moniteur de ski qui est en fait ton concierge. Et pareil, le soir, tu avais prévu de aller au restaurant, finalement, t'es vanné, t'as envie de rester à la maison, et tu dis, on va faire, finalement, on fait une fondue à la maison. En fait, ta fondue, on te l'organise. Toi, tu sors pas, tu vas te faire masser, on va prendre soin de toi. Et tout va être organisé et elle t'attendra au chaud, quoi.
Et lui, il est compris dans le prix?
Ouais.
Ou c'est des extras à chaque fois?
Non, il est compris dans le prix. Après, de mémoire, les deux premiers jours sont offerts en moniteur de ski. Mais après, il reste ton concierge. Donc, mais évidemment, si tu demandes une fondue, si t'as un service de livraison, tu vas le payer.
Bien sûr.
Mais le fait d'y avoir accès, d'avoir accès à cette personne n'est pas payant.
D'accord. Trop bien. Il se passe quoi après? Tu rentres chez toi?
Alors, plus souvent, tu termines tes vacances, tu chiales ta race, tu prends ton avion.
Tu chiales ta race.
Et tu arrives à Paris, il pleut, Londres, New York. Nous, on a 80% de nos clients sur 5 villes, New York, Paris, Londres, Bruxelles, Genève. Et
que des bobos.
Ouais, que des bobos. Et du coup... quelques semaines après, enfin le plus souvent, ça, 2-3 semaines après, t'as un bouquet de notre part pour te remercier d'être parti avec nous.
Classe. Vous travaillez avec qui sur les bouquets?
De quoi?
Vous travaillez avec qui sur les bouquets?
À Paris, avec Arôme, t'entends avec De Beaulieu. J'aime beaucoup. Et après, ça dépend un peu de chaque pays.
D'accord.
Honnêtement, je les ai pas tous en tête. Et ça, c'est un truc de ma mère qui était... faut toujours venir à un bouquet quand t'es invité quelque part. Et en fait, c'est resté... Donc, et ça fait toujours plaisir. Et après, non, on va garder une relation. Enfin, nous, on enverra régulièrement des.
Mais c'est fort quand même, le petit bouquet là, c'est quand même chambé. Hein.
Ouais, mais je trouve que c'est. Après, encore une fois, on a pris soin de toi, mais tu nous as fait confiance. C'est un moment important, ce sont tes vacances. Donc, non, je trouve ça important de remercier.
Et t'as un taux de repeat de ouf?
Ouais.
Ouais.
Mais ce qui est, mais ce qui est normal parce que.
Parce qu'on est bon.
Ouais, parce que. Et on fait attention aux gens. Et on peut les accompagner sur plein de destinations.
Non, mais c'est sûr. Mais c'est là que ça devient une cash machine, finalement. C'est que ton coût d'acquisition, il est peut-être important, d'ailleurs. C'est ouais. Combien ça coûte d'écrire un client?
Un nouveau client, 1000 euros.
1000 euros le client? Ah ouais. Putain, c'est beaucoup, quand même. Hein.
Ouais.
Après, c'est des paniers moyens qui sont quand même un peu plus importants.
Ben, à 30. Ouais, en
tu
gros,
pas
notre.
Des chaussettes, ouais.
Ouais, la commission moyenne, elle va être à 4000-4500 euros. D'accord. Donc du coup en vrai on est rentable dès le premier jour, l'argent. Mais Non, le repeat, je pense, c'est, enfin, nous, c'est le backbone de la compagnie, enfin, ouais. de la société, pardon.
C'est-à-dire ça, c'est votre North Star métrique.
Ouais, bah, y en a plusieurs. Il y a ouais. le repeat, l'exclu.
L'exclu, ça veut dire quoi?
Le pourcentage de biens qu'on a en exclusivité dans le portefeuille.
Ah, d'accord. Ah oui, parce que oui, putain, oui, ça, c'est un vrai truc,
ouais. Ouais. Et ce qui est pas, honnêtement, c'est quelque chose qu'on développe petit à petit. On a à peu près 40% de nos réservations qui sont faites sur des biens en exclusivité. Donc, c'est important. Mais je pense que c'est hyper important pour, encore une fois, l'expérience, aussi bien côté locataire que côté propriétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es le seul à gérer la maison, mille fois plus simple pour les deux. Enfin, pour nous aussi.
C'est clair.
Mais,
mais vous avez cette capacité à remplir des maisons all year long, quoi.
Et aussi bien hiver que été. Pour les chalets.
D'ailleurs, en moyenne, vous avez combien de semaines par bien?
On ne travaillera jamais à moins de 4 semaines par bien sur la haute saison.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, par exemple, le mois de juillet ou le mois d'août ou un bout de juillet et d'août. Parce qu'autrement, après, ça fait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Enfin, si tu nous donnes une semaine dans ton été, on n'acceptera pas à la maison. Et sur le ski, c'est marrant parce que, en fait, le ski, c'est une saison qui est beaucoup plus longue. Parce que même si t'as Noël, Nouvel An, qui sont les mêmes pour quasiment tout le monde, après, t'as toutes les vacances en décalé, tu le vois en France, mais t'as pareil pour le UK. Donc, c'est une saison, en fait, qui peut durer 12-14 semaines. Et même là, à Pâques, en fait, tout le monde est reparti skier parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de neige cette année.
Dommage qu'il y aura plus de neige bientôt, quoi.
Ouais.
Ça, c'est chiant.
Du coup, nous, on a de plus en plus de logs d'été à la montagne.
Ok.
Parce que, mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire, je pense, les gens qui adoraient griller au soleil il y a quelques, enfin,
ils ont plus
jeunes,
ouais.
Et ils ont envie, t'as envie d'avoir un peu la clim naturelle. Donc, il y a pas mal de stations qui sont des super stations d'été, Megève, Zermatt.
Ouais.
Donc, nous, on a de plus en plus de logs d'été.
Trop bien.
En montagne.
Ok. Pourquoi vous achetez pas vos maisons?
Parce que c'est pas le même métier. On regarde, pour être super honnête, on regarde pour avoir quelques maisons collectionnistes où du coup nous on mettrait naturellement beaucoup plus d'expérience, d'activité, d'équipe,
de design.
Ouais, je pense ça serait aussi un peu mieux raconter notre histoire, un peu des flagships finalement. Mais c'est deux métiers différents. Enfin, ça se rapproche d'un seul coup beaucoup plus de l'hôtellerie. Nous on est une marketplace, on met en relation, en étant au milieu, mais on met en relation des gens. Et en prenant une commission. Mais non, je pense que c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet cool.
C'est un petit kiff, ouais.
Ouais, c'est un petit kiff.
C'est même un gros kiff.
Et je pense que c'est aussi un bon moyen de présenter. C'est un kiff, je pense, de brain, enfin vraiment pour la marque. Et il y a un côté aussi, d'un point de vue rentabilité, de pouvoir montrer la rentabilité maximale qu'on peut sortir sur une maison quand on s'en occupe de A à Z. Donc non, on regarde. Ouais. Pour être honnête, on regarde, mais c'est pas, ça sera pas l'axe de développement principal
à
venir.
C'est pas top priority.
Non.
Mais c'est quand même, ça fait partie des objectifs. Trop bien. Toi, ton rôle, il a muté de ouf en 10 ans. C'est dingue. Tu viens, t'étais petit consultant, consultant. Aujourd'hui, t'es plus le CEO. Tu disais que t'avais un CEO, mais t'es.
Non, je suis toujours le CEO. Je parlais de Ben, le COO.
Pardon. Ah, le CEO,
ouais,
pardon.
Qui est le directeur d'opération.
D'accord. Donc, t'es CEO d'une boîte avec 250 personnes qui fait 100
millions.
Qui va faire 140 millions cette année. ouais, tu commences à passer dans la cour des grands quand même en termes de d'épaule, quoi.
Ouais, c'est marrant, on a fait notre séminaire il y a pas longtemps aux Zambiers, qui sont les îles Paul Ricard. C'est un endroit qui est assez cool. Et on était quasiment 300. Et à ce moment-là, genre, je suis toujours...
Je réalise.
Et je suis toujours...
Faut chauffer les gens.
Hyper ému. Ouais, mais même de se dire, waouh, ça a pas de sens. Enfin, ça, c'est fou. Et après, avec notre organisation, et je pense que c'était aussi une volonté de... un peu un truc de à la Peter Pan, mais le fait d'avoir 8 bureaux et d'avoir cette organisation de bureaux régionaux dès qu'une destination devient importante, mature, bah en fait ça crée plein de petits bureaux qui restent à taille humaine. Enfin, tu passes au bureau de Marseille, ils ont leur propre identité. Je pense les gars de Marseille font tout le temps, enfin c'est un cliché, c'est vrai. Pareil, enfin le bureau de Bordeaux, de Barcelone, d'Ibiza, ce sont des bureaux qui sont à chaque fois, je trouve, sublimes, mais qui ont leur identité propre et ça reste à taille humaine. Donc, et moi, je voyage énormément entre les différents bureaux. Je trouve ça hyper important pour se rendre compte, hein, tout simplement, si ça se passe bien, si les gens sont heureux de travailler dans cette société, de comprendre les problèmes, de pouvoir les remonter. Et, mais à ce moment-là, on se rend pas compte. En fait, le deuxième plus gros bureau, ça va être Marseille. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes. Donc, quand on met tout le monde, et en plus, ça, c'est hors saisonnier. C'est-à-dire que on a à peu près 200 saisonniers qui s'ajoutent à ça pour l'été, 200 saisonniers pour l'hiver. Donc, on tourne plutôt environ à 500 personnes dans la boîte en permanence. Mais,
ce qui fait des gros payrolls.
Ouais.
quand il faut faire les virements, ça doit piquer un peu. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est quand même, c'est un métier ultra opérationnel. Et c'est pas toujours forcément le truc le plus sexy du monde, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vas me dire, mais la part de créativité, elle est assez faible finalement dans ton temps. Tu gères beaucoup de problèmes.
Moi, ça fait longtemps que je gère plus trop les problèmes. Aujourd'hui, typiquement, il y a une organisation avec les patrons de bureau. Côté opération, il y a pas mal de relais. Et plus on prépare les saisons, plus on s'améliore, plus on connaît nos maisons, moins on a de pépins. Donc quand même, on a de moins en moins de
C'est quoi les plus grosses galères que vous avez eues?
Franchement, le Covid, ça a été évidemment une énorme galère, mais les feux l'année dernière en Gironde, on avait eu une sorte de mini-typhon à Ibiza sur un mois d'août qui avait carrément balayé des routes entières, on avait plus accès aux maisons, les mecs avaient de la flotte jusqu'à la ceinture, enfin, donc... le réchauffement climatique, c'est un vrai truc.
Ouais, ça se voit quand tu fais ce business-là.
Ouais, vraiment. Et c'est marrant parce que je sais pas si on parlera un peu de RSE, enfin, de ce qu'on peut faire, etc. Mais nous, c'est très axé sur la protection de nos destinations, qui est le premier actif. C'est-à-dire qu'à la fin, en vrai, le tout premier actif de la société, c'est même pas les maisons, c'est la destin. Ouais. Et on a un impact négatif comme n'importe qui dans le tourisme. Peut-être un tout petit peu moins, parce qu'il y a moins de personnes, vu cette lutte, ça fait un peu plus niche, mais. Mais ça reste un impact négatif sur des destinations. Donc non, je pense que la créativité, elle est beaucoup plus dans la marque, la manière de se raconter, la manière, quand on parlait justement de apporter du confort et d'enlever de la friction dans la réservation, dans les vacances des gens, donc ça, oui, énormément, en fait, comment t'es le meilleur pour faire ça. Et je trouve que ça c'est, il faut être créatif. Et après, côté conciergerie aussi, ils sont super créatifs. On a déjà eu pour l'anniversaire de les 18 ans de ma fille, un tatoueur, un DJ, le liron d'Austin Power. Enfin non, on a vraiment des trucs improbables.
Trop bien. Ouais, on parlait de RSE. Vous clairement, pour respecter les lieux où vous allez, vous faites quoi concrètement?
En gros, RSE, on a un peu deux trucs. Le premier, c'est on est en train de passer notre labellisation B Corp, je sais pas si tu vois ce que c'est.
Ouais, très bien. Ouais.
Et du coup, c'est un label qui te nomme un peu comme une entreprise responsable d'un point de vue RSE.
Ouais.
Mais tu peux avoir des points en fait sur plein de sujets différents. Typiquement, je trouve que beaucoup de nos points, on les a sur des sujets plutôt sociétaux.
Ouais.
Que environnementaux, pour être super honnête. Mais après, on voulait aussi. Et c'est bien, je pense que ces labels sont importants aussi pour passer des messages à tes équipes, aux futurs talents que tu veux recruter avant tout. Côté marque employeur, je pense que c'est hyper important. Mais en revanche, c'est pas suffisant et ça doit s'accompagner d'une vraie politique RSE. Nous, on a le sentiment que aujourd'hui, les destinations qu'on travaille sont aussi des destinations qui sont à risque. Enfin, il y a plusieurs destinations dans lesquelles on opère où il y a eu des énormes incendies. Je touche du bois, on n'a encore jamais eu de maisons qui ont été touchées ou quoi que ce soit, mais on a relogé des gens. Et effectivement, on a eu un typhon aussi à Ibiza en plein mois d'août. Les plages qui diminuent, tu le vois, tout ça, tu le vois réellement dans toute modestie. Et on se dit que les associations locales qui travaillent dessus seront bien meilleures que nous. C'est-à-dire que si c'est pour planter des arbres, en fait, il y a plein de gens qui le font mieux que nous. Donc, c'est pas du tout une stratégie qu'on voulait faire. Et donc, par bureau régional, on choisit une à deux associations qui nous tient à cœur. On est en train de le lancer. On annoncera la première association cet été à Bordeaux. Et en fait, on va apporter le maximum de nos ressources. Et où est-ce qu'on est bon? Nous, on est bon pour avoir accès à des gens plutôt fortunés, soit nos propriétaires, nos locataires, nos investisseurs. Et ensuite, pour donner de la visibilité. Parce qu'on a une marque qui est plutôt connue, on parle souvent à la presse, on a l'occasion de faire des podcasts. Et en fait, l'avantage, c'est que ces locataires, ces propriétaires, sont des gens pour qui la destination sont aussi, c'est hyper important. Enfin, c'est souvent des gens qui sont tombés amoureux d'une destination, qui ont construit une super belle maison. Donc, ils sont pour défendre au maximum et protéger, en fait, ce lieu. Donc, là, on commence juste et c'était vraiment l'idée derrière, c'était de dire, un, ne faisons pas quelque chose que quelqu'un fait mieux que nous. Mais justement, genre, apportons tout ce qu'on peut apporter et là, on aura le plus d'impact pour ces personnes-là. Et donc, c'est des ressources et de la visibilité. Donc, c'est un peu ça notre intérêt à ceux.
Trop bien. Chouette. Vous êtes partie du monde de l'hospitality. Toi, vous le côtoyez un petit peu, ce monde de l'hospitality. Est-ce qu'on se fréquente entre gens de l'hospitality? Et surtout, toi, qu'est-ce qui t'excite vraiment en ce moment dans ce monde-là? Parce que j'imagine qu'il est chamboulé aussi, comme toutes les autres industries.
Est-ce qu'on se reçoit? C'est le cas, je suis pas trop invité. Non, mais en vrai, je pense pas. Non, j'ai l'impression que tout le monde est un peu, tout le monde fait son bise dans son coin. Alors, le monde de l'hospitality, c'est hyper large. Hein. Les hôtels, les gîtes, les campings. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, on a gagné. On était membre de French Tech 120. Donc c'est les 120. Je sais pas, future boîte championne de l'économie française, notamment le Next 40 qui est hyper connu. Et donc, nous, on vient d'intégrer le peloton. Et le deuxième dans l'hospitality, dans le monde travel, c'était camping.com, qui est une super belle boîte. Et bref, on s'est rencontrés, c'était hyper chouette. Donc, non, je pense pas qu'il y ait des grandes discussions, même sur des effets un peu de marché ou quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai quand même plus de discussions avec des marques de luxe où on va discuter de l'expérience client, des nouvelles tendances, que je trouve avec le monde de l'hospitality. Même si côté hôtellerie, ça nous arrivait plein de fois de discuter avec des grands groupes hôteliers pour qui en fait ils voient qu'il y a vraiment une tendance sur la location de maison, le fait d'avoir un espace plus intimiste, sans règles, en fait, t'as pas d'heure du petit déjeuner. C'est toi qui décides quand ton équipe de ménage va passer, enfin c'est chez toi le temps d'une semaine, un mois, enfin le temps que tu veux. Mais donc non, on a souvent des discussions avec certains groupes hôteliers et nous on est plutôt détente là-dessus. En plus, y a pas vraiment de recette miracle, hein. On n'a pas inventé le Coca-Cola sauf à donc non mais y a pas un grand, c'est pas comme la franc-maçonnerie.
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez un peu pété le game quand même?
Je pense toujours la même chose,
la patience, l'exécution.
La patience, l'exécution, exactement. Ouais, être focus sur projet après projet. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on le voit qu'à partir du moment où on essaie de lancer trop de projets en même temps, trop de destinés en même temps,
ça foire.
Ouais, enfin, en tout cas, ça a un impact négatif sur l'expérience du client à un moment, les équipes, le produit. Enfin, donc, je pense en fait, faut accepter qu'entreprendre, ça prend du temps. Et que encore plus en fait dans le milieu du luxe, et que ça se construit, et qu'en fait construire une marque, on parle un petit peu de justement qu'est-ce qui fait que la marque est cool ou quoi que ce soit, bah avant tout de bien faire ton taf, quoi. Je veux dire, c'est le bouche à oreille, c'est
oui, c'est un peu le béaba, ouais. C'est clair.
Donc effectivement, les journalistes parleraient moins de nous si l'expérience n'était pas reconnue comme une super expérience, quoi.
Carrément. D'ailleurs, tu ferais quoi, toi, si tu faisais pas ça? T'as pas des frustrations de temps en temps, quand même?
J'en ai eu, moi, maintenant.
C'était quoi, tes frustrations?
C'était de travailler sur une population qui est quand même super privilégiée, de pas avoir le sentiment de me dire que je pouvais aider des personnes qui en avaient peut-être plus besoin. C'est évidemment contrebalancé par d'autres choses. C'est cool de travailler dans le luxe, ça donne des moyens de pouvoir faire les choses bien, de pouvoir faire des produits cool, de pouvoir montrer des gens hyper intéressants qui ont des parcours fous, qui ont des idées complètement dingues de propriété, avec des toits qui s'ouvrent, des jacuzzi qui s'élèvent comme un ascenseur au-dessus du chalet. Enfin, il y a des gens fous dans nos propriétaires comme dans nos guests, ça c'est assez cool. Toute la partie M&A aussi. En fait, c'est marrant, genre, je trouve depuis 4-5 ans, j'aime moins ce truc-là. Mais avant, ouais, je pense que ça aurait été d'avoir quelque chose qui était, sur laquelle j'aurais encore plus la main. Ça aurait été genre des tout petits hôtels, 4-5 chambres, hyper niche, dans des destinations que j'aime bien, un peu plus off the beaten track que ce qu'on pouvait faire. Et maintenant, je pense que c'est vraiment plus de me dire, par exemple, je sais pas exactement quel projet, mais je trouve que sur les populations âgées, en fait, la médecine, trop bien, la médecine s'améliore, etc. Et en fait, on vit de plus en plus longtemps, mais je trouve pas forcément dans les meilleures conditions et surtout souvent hyper seul. Enfin, même si on a plein d'enfants, de petits-enfants, ils font leur vie, c'est normal, c'est le jeu. Hein. Mais je trouve que autour de dans les dernières années de sa vie, en fait, de voir des gens et continuer à faire des choses, c'est super important. En fait, c'est ça reste des années de vie, en fait, où quand on peut le faire, si on peut voyager, si on peut rencontrer d'autres personnes, si on peut s'ouvrir au monde, si on peut partager, si on peut discuter, c'est hyper important. Et je vois, j'ai trois de mes grands-parents et là certains qui sont pas en super forme et ça me touche encore plus. Et j'avais lu un article sur les pays scandinaves qui traitaient leur mort de manière horrible, notamment en fait le côté genre t'es l'enfant de quelqu'un, tu n'as aucune responsabilité envers la personne, c'est-à-dire la personne pouvait mourir, en fait il y avait tout un système du gouvernement qui s'occupait de tout et en fait les enfants venaient même pas à l'enterrement, c'était en mode non mais on s'entendait pas hyper bien, enfin un peu comme une connaissance quoi, de loin. Oui, bon, il m'a donné la vie mais mollo, enfin tu vois, j'ai pas non plus toute ma vie le remercier. Ça m'avait vachement choqué. Et donc l'article, c'est dans Society, genre racontait un peu comment prendre soin de des personnes fragiles, enfin des populations les plus fragiles qui sont en vrai les bébés, enfin les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées étaient souvent révélateurs d'une société. Et je crois énormément. Donc je pense que oui, si il y a une aventure d'après. C'est en tout cas un secteur qui me passionne et où je trouve que j'aimerais mettre de mon temps, peut-être des ressources, enfin
Des lieux mixtes.
Ouais, franchement, là typiquement, je vois ma fille a rencontré mon arrière-grand-mère pour la première fois ce week-end et c'était hyper émouvant. C'était dans des situations, des conditions pas forcément les plus joyeuses, mais c'est marrant. À un moment, elle caressait la main de mon arrière-grand-père. Hyper âgé, pas en super forme, comme si elle prenait soin de lui. Et je trouve en fait ces connexions, ouais, elles sont assez dingues. Il y a 1000 documentaires, articles là-dessus. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, je pense que un peu comme le karma business, mais ça c'est le karma tout simple de la vie. Prenons soin de ces gens-là. En fait, on sera à leur place. Dans pas si longtemps. Et je pense que ouais, la société de manière générale devrait un petit peu évoluer là-dessus.
Ouais, on voit quand même pas mal de choses qui vont dans ce sens, mais c'est vrai que vraiment pas suffisamment, quoi. Tu vois, quand tu vois les EHPAD, il y a encore de nombreux mouroirs, malheureusement, dans ce pays. Trop bien, je pense qu'on a fait quand même un grand tour, non ? J'ai l'impression qu'on a balayé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder pendant cette conversation ?
Non, pas, j'avais pas forcément une checklist en tête. J'en pense que ça se fait assez naturellement, donc cool. Non, j'ai pas forcément de sujet. J'ai envie de pousser.
Ok, très bien. Moi, pour passer le relais, j'aime bien poser cette question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Ah, il y a plein de gens.
Ah ouais, super, vas-y, balance.
Je pensais, alors il y en a peut-être, je vais pas scruter toute la liste des personnes que tu as déjà interviewées, mais il y a peut-être des personnes que tu connais déjà. Je pensais à Charlotte Cadet, typiquement chez Silency. Et je trouve pareil, ça fait pas mal écho à pas mal de sujets qu'on a abordé là. On parlait food au départ. Je pense qu'aujourd'hui il y a plein de restaurateurs. C'est marrant parce que c'est des créations de marques. J'ai un pote qui vient d'ouvrir un resto qui s'appelle le Paul Chen au Cherche Midi. Il y en avait trois dans Paris, maintenant il y en a deux. Mais on l'a vu aussi avec des Big Mamas. Enfin, les créations de marques autour de la food sont hyper importantes. Qui sont les gens que j'aimerais voir sur ce podcast? J'ai une de mes amies qui a créé une marque qui s'appelle Pérenne, mais en fait, elle vient dans ton dressing et elle prend tous les vieux trucs que tu mets plus. Ou en plus, tu as dépensé une fortune pour ton sweat Kenzo avec un œil et autre marque. Et en fait, elle est mix, elle les reprend, elle en fait des trucs hyper cool. Donc, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Hein. C'est pas, enfin, moi, je suis pas un grand expert de la mode, mais toi, oui. Et je trouve ça génial, en fait, toutes les initiatives. Donc, non, plein de gens à inviter.
Trop bien. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Longue vie à le collectionniste et pas the collectionniste, hein, vous l'aurez compris. Et ouais, et donc en route pour le milliard, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Good luck dans cette quête. Salut.
Merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.